Chapitre 92 À un inconnu. Le livre de Dieu est grand ouvert, et sa parole appelle à lui tous les hommes. Mais il ne s'en est trouvé qu'une poignée pour adhérer à sa cause, ou pour s'employer à la répandre. Ce petit nombre a changé le divin élixir, qui peut seul changer en or pur l'écume du monde, en même temps que le pouvoir d'administrer l'infaillible remède aux maux dont souffrent les enfants des hommes. Aucun homme ne peut parvenir à la vérité éternelle sans avoir embrassé la vérité de cette inestimable, merveilleuse et sublime révélation. Ô ami de Dieu, tendez l'oreille à la voix de celui que le monde a si injustement traité, et attachez-vous fermement à tout ce qui peut exalter sa cause. En vérité, il guide qui lui plaît en son droit chemin. C'est là une révélation qui communique de la force aux faibles et couvre de richesses les destitués. Consultez-vous les uns les autres dans un esprit d'extrême amitié et de parfaite fraternité, et consacrez les jours précieux de votre vie à l'amélioration du sort du monde et à l'avènement de la cause de celui qui est l'ancien et souverain Seigneur de tous. Il ordonne aux hommes ce qui est juste, et il leur défend ce qui les dégrade. Chapitre 93 Lo et tafsir et bat et sadi à Sher Salman. Sache que toute chose créée est un signe de la révélation de Dieu. Chacune, selon sa capacité, est et restera un symbole du Tout-Puissant. Ayant décidé, lui, le souverain Seigneur de tous, de révéler sa souveraineté dans le domaine des noms et attributs, il a, par un acte de sa volonté, fait de chaque chose créée un signe de sa gloire. Si pénétrante et si répandue est cette révélation, qu'il n'y a rien dans l'univers qui n'en reflète la splendeur. Dans ces conditions, s'efface toute évocation d'éloignement ou de proximité. Si la main du divin pouvoir retirait aux choses créées ce don inestimable, l'univers en deviendrait vide et désolé. Admire combien le Seigneur est infiniment exalté au-dessus de toute chose créée. Contemple sa majesté souveraine, son autorité, son pouvoir suprême. Si ces choses qu'il a créées, exaltées soit sa gloire, et dont il a fait des manifestations de ses noms et attributs, se trouvent, par la vertu de la grâce dont il les a dotées, au-dessus de toute condition de proximité et d'éloignement, combien plus élevée doit se trouver l'essence divine qui les a appelés à l'existence. Médite ce qu'a écrit le poète. Ne t'étonne pas que mon bien-aimé soit plus près de moi que je ne le suis moi-même. Étonne-toi plutôt qu'en dépit de sa proximité, je reste moi si loin de lui. Lorsque le poète se réfère à ce que Dieu a révélé, nous sommes plus près de l'homme que la veine de son cœur. Il a voulu dire par ce verset que Dieu se trouve plus près de moi que la veine de mon cœur. Tout pénétrait que soit mon être de la révélation de mon bien-aimé, malgré ma certitude de la réalité de cette révélation et ma reconnaissance de ma condition. Il veut dire par là que son cœur, où siège le miséricordieux, et où trône la splendeur de sa révélation, est oublié de son Créateur, s'est écarté de sa voie, privé de sa gloire, et a subi la souillure des désirs terrestres. Il convient à ce propos de rappeler que le seul vrai Dieu est, en lui-même, exalté au-delà et au-dessus des états d'éloignement et de proximité. Sa réalité transcendante ne connaît pas de telles limitations. Sa relation avec ses créatures ne connaît point de degré. Que certaines d'entre elles soient proches et que d'autres soient éloignées est dû aux manifestations elles-mêmes. Le fait que le cœur humain soit le siège de la révélation de Dieu, le très miséricordieux, est attestée par les saintes déclarations que nous avons autrefois révélées. Entre autres, se trouve celle-ci. « La terre et le ciel ne me peuvent contenir. Seul peut me contenir le cœur de celui qui croit en moi et qui est fidèle à ma cause. » Le cœur humain, dépositaire de la lumière divine et siège de la révélation du miséricordieux, s'écarte si souvent de celui qui est la source de cette révélation et de cette lumière. C'est l'indocilité du cœur qui l'éloigne de Dieu et le condamne à être séparé de lui. Quant au cœur pleinement conscient de sa présence, ils sont proches de lui, et l'on peut dire qu'ils se sont approchés de son trône. Considère, en outre, combien fréquemment l'homme est oublieux de lui-même, alors que Dieu, par sa connaissance qui englobe toute chose, reste conscient de sa créature et continue de répandre sur elle l'éclat manifeste de sa gloire. Il est donc évident que, dans ces conditions, Dieu se trouve plus près de sa créature que celle-ci ne l'est elle-même, et il le demeurera à jamais. Car tandis que le seul vrai Dieu connaît, perçoit et embrasse toute chose, l'homme est enclin à l'erreur et ignorant des mystères qu'il porte au-dedans de lui-même. Qu'on n'aille pas imaginer qu'en disant que toute chose créée sont les signes de la révélation de Dieu, nous entendions, Dieu nous en préserve, que tous les hommes, bons ou mauvais, croyants ou mécréants, sont égaux devant Dieu. Cela n'implique pas davantage que l'être divin, magnifié soit son nom et exalté sa gloire, soit en aucune façon comparable aux hommes, ni qu'il puisse, en quelque manière, être associé à ses créatures. Cette erreur est commise par quelques insensés qui, tentant de se hausser jusqu'aux cieux de leurs vaines imaginations, ont prétendu que l'unité divine signifiait que toutes choses créées sont des signes de Dieu, et qu'il s'ensuivait qu'aucune distinction ne saurait être établie entre eux. D'autres, les dépassant dans une telle erreur, vont jusqu'à prétendre que ces signes ne sont rien de moins que les pères et associés de Dieu lui-même. Juste ciel, il est en vérité un et indivisible, un dans son essence et un dans ses attributs. Tout ce qui n'est pas lui n'est rien en face de la resplendissante révélation d'un seul de ses noms, qui ne contient que la plus faible lueur de sa gloire, et combien moins en face de Dieu lui-même. Par la justice de mon nom, le miséricordieux. À la révélation de ces paroles, la plume du Très-Haut est agitée d'un tremblement douloureux. Combien chétive et insignifiante est l'évanescente goutte d'eau auprès des lames et des vagues houleuses de l'océan divin sans limite et sans fin. Et combien méprisable, au regard de l'ineffable gloire incréée de l'Éternel, apparaît tout ce qui est contingent et périssable. Pour ceux qui entretiennent de telles croyances et profèrent de tels propos, nous implorons le pardon du Dieu Tout-Puissant. Dis, ô peuple, comment comparer l'absolu à une pensée éphémère? Et comment assimiler le Créateur à ses créatures, qui ne sont que les signes tracés par sa plume? Que dis-je, ce qui sort de cette plume excelle toute chose, est infiniment exalté au-dessus de toute créature. Considère encore dans leur rapport mutuel les signes de la révélation de Dieu. Le soleil, par exemple, qui n'est qu'un de ces signes, peut-il être mis au même rang que les ténèbres? Le seul vrai Dieu m'en rend témoignage. Nul homme ne le croira possible, à moins que son cœur ne soit desséché et ses yeux entièrement abusés. Dites, considérez votre propre personne, vos ongles et vos yeux en font partie. Leur attribuerez-vous même rang et même valeur? Si vous acquiescez, alors en vérité, vous accusez d'imposture le Seigneur, mon Dieu, le Très-Glorieux, car vous coupez les uns et vous prenez soin des autres comme de votre propre vie. Il n'est aucunement permis de transgresser les limites de son rang et de son état. Ceux-ci doivent être maintenus dans leur parfaite intégrité. Autrement dit, toute chose créée doit être considérée sous l'angle du rang qui lui a été assigné. Il ne faut pas perdre de vue que lorsque la lumière de mon nom, l'omnipénétrant, répand son éclat sur le monde, toute chose créée est, selon un décret immuable, douée de la capacité d'exercer une influence particulière et mise en possession d'une vertu distincte. Considère les effets du poison. Encore que mortel, il peut, dans certaines conditions, exercer une influence bienfaisante. Le pouvoir dont toute chose créée est imprégnée est la conséquence directe de la révélation de ce nom béni. Gloire à celui qui est le créateur de tous les noms et attributs. Jetez au feu l'arbre pourri et desséché. Restez à l'ombre de l'arbre vert et florissant, et prenez votre part de ses fruits. La plupart de ceux qui vécurent au jour des manifestations de Dieu ont émis ce genre de propos inconvenants. Ceux-ci sont recueillis en détail dans les livres révélés et les saintes écritures. Est vraiment croyant en l'unité de Dieu, quiconque reconnaît en toute chose créée et en chacune d'elles le signe de la révélation de celui qui est la vérité éternelle, et non pas celui qui maintient que la créature ne se distingue pas du Créateur. Penche-toi, par exemple, sur la révélation de la lumière du nom de Dieu, l'Éducateur. Vois comment se manifestent en toute chose les preuves de cette révélation, comment l'amélioration de tous les êtres en dépend. Cette éducation est de deux sortes. L'une est universelle. Son influence pénètre toutes choses et entretient leur existence. C'est pour cette raison que Dieu s'est donné le titre de Seigneur de tous les mondes. L'autre est réservée à ceux qui se sont mis à l'ombre de son nom et qui ont recherché l'abri de cette puissante révélation. Quant à ceux qui l'ont dédaigné, ils se sont eux-mêmes frustrés de ce privilège et ne peuvent bénéficier de la nourriture spirituelle envoyée par la grâce céleste de ce plus grand nom. Quel abîme sépare les uns des autres! Si le voile est élevé et qu'apparut dans la plénitude de sa gloire la condition de ceux qui se sont résolument tournés vers Dieu et qui, pour l'amour de lui, ont renoncé au monde, la création tout entière en serait frappée de stupeur. Ainsi que cela a déjà été expliqué, le vrai croyant en l'unité de Dieu verra dans le croyant et dans l'incroyant les signes évidents de la révélation de ces deux noms. Si cette révélation était abolie, tous périraient. Penche-toi de même sur la révélation de la lumière du nom de Dieu, l'incomparable. Vois comment cette lumière a enveloppé toute la création, comment toutes les choses créées manifestent les signes de son unité, attestent la réalité de celui qui est la vérité éternelle et proclament sa souveraineté, son unité et sa puissance. Cette révélation est un gage de sa miséricorde qui a englobé toute chose créée. Ceux, toutefois, qui ont prêté à Dieu des associés restent ignorants d'une telle révélation. Ils sont privés de la foi par laquelle ils auraient pu s'approcher de lui et s'unir à lui. Vois comment les divers peuples et fratries de la terre témoignent de son unité. S'ils ne portaient pas en eux-mêmes le signe de cette unité, ils n'eussent jamais reconnu la vérité des paroles « Il n'est d'autre Dieu que Dieu ». Et pourtant, vois comme ils ont lamentablement erré, comme ils se sont écartés de sa voie. En refusant de reconnaître la révélation souveraine, ils ont cessé de compter parmi les vrais croyants en l'unité de Dieu. En un sens, ce signe de la révélation de l'être divin que portent en eux-mêmes ceux qui ont donné à Dieu des associés peut être considéré comme un reflet de la gloire dont sont illuminés les fidèles, mais c'est là une vérité accessible à ceux-là seulement qui sont doués de compréhension. Ceux qui ont vraiment reconnu l'unité de Dieu doivent être regardés comme les premiers à manifester ce nom. Eux ont bu à longs traits dans la coupe que leur tendait la main de Dieu, le vin de l'unité divine, et ont tourné leur face vers lui. Quelle distance sépare ces êtres sanctifiés de ces hommes qui errent si loin de Dieu ? Veuille le Seigneur que d'un regard pénétrant, tu perçoives en toute chose le signe de la révélation de celui qui est l'ancien roi, et que tu reconnaisses combien cet être saint et sacré est exalté par-dessus toute la création. Telles sont en vérité la racine et l'essence même de la croyance en unité divine. Dieu était seul, il n'y avait personne autre que lui. Il est maintenant ce qu'il a toujours été. Il n'est d'autre Dieu que lui, l'unique, l'incomparable, le tout-puissant, le sublime, le très grand. Chapitre 94. À Djinab et Hachim. Passons maintenant à ce que tu as dit concernant l'existence de deux dieux. Prends garde, prends bien garde d'être ainsi conduit à donner des associés au Seigneur, ton Dieu. Il est et a toujours été seul et unique, sans père ni égal, éternel dans le passé, éternel dans l'avenir, indépendant de toute chose, sans limite, immuable et absolu. Il ne s'est adjoint aucun associé dans son royaume, aucun conseiller pour le guider, ni personne qui puisse lui être comparé et dont la gloire puisse rivaliser avec sa gloire. De cela portent témoignage tous les atomes de l'univers et par-delà les hôtes des royaumes célestes qui occupent les régions les plus élevées et dont les noms sont rappelés devant le trône de gloire. Du fond du cœur, témoigne de cette déclaration faite par Dieu lui-même et pour lui-même qu'il n'y a d'autre Dieu que lui, que tout ce qui n'est pas lui n'existe que par son ordre, que tout a été façonné avec sa permission, est assujetti à sa loi, rentre dans l'oubli, lorsqu'on le compare aux preuves glorieuses de son unité, et n'est que pur néant auprès des puissantes révélations de son unité. De toute éternité, Dieu fut un dans son essence, un dans ses attributs, un dans ses œuvres. La comparaison n'est applicable qu'à ses créatures, et l'idée d'association est une notion qui n'appartient qu'à ceux qui le servent. Son essence est incommensurablement exaltée au-dessus des descriptions que peuvent faire de lui ses créatures. Il est seul à occuper le trône de majesté transcendante, de suprême et inaccessible gloire. L'oiseau du cœur de l'homme, si haut qu'il plane, ne pourra atteindre les sommets de son essence inconnaissable. C'est lui qui a appelé à l'être toute la création, lui qui, par son ordre, a fait surgir du néant toute chose créée. Et vraiment, cette créature née par la puissance de la parole que sa plume a révélée et qu'a dirigé l'index de sa volonté, peut-elle lui être associée ou être tenue pour une incarnation de Dieu lui-même? Incompatible avec sa gloire est la plume ou la langue qui chercherait à faire allusion à son mystère ou le cœur humain qui tenterait de concevoir son essence. Tous ceux qui ne sont pas lui se tiennent à sa porte, pauvres et désolés, impuissants devant la grandeur de sa puissance, simples esclaves en son royaume. Il est, en vérité, assez riche pour se passer de toutes ses créatures. Quant au lien de servitude qui unit l'adorateur à l'adoré, la créature à son créateur, il n'est qu'un gage de pure faveur de la grâce divine, et en aucun cas l'indication de quelque mérite que les hommes pourraient posséder. De cela, tout vrai croyant éclairé portera témoignage. Chapitre 95. À Nématullah. Sache que, selon les décrets du livre de ton Seigneur, le Seigneur de tous les hommes, les faveurs qu'il dispense à l'humanité sont et demeurent à jamais sans limitation. Le don de l'intelligence vient en premier lieu parmi ces faveurs conférées aux hommes par le Tout-Puissant. En accordant un tel don à sa créature, son intention est avant tout de la rendre capable de connaître et d'accepter le seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire. Ce don confère à l'homme le pouvoir de discerner la vérité en toute chose, le conduit à ce qui est juste et l'aide à découvrir les secrets de la création. Vient ensuite le sens de la vue, principal instrument qui permet à l'intelligence de fonctionner. L'ouïe, la sensibilité et les autres sens sont également au nombre des bienfaits dont le corps humain est gratifié. Immensément exalté est le Tout-Puissant qui a créé ses facultés et les révèle dans le corps de l'homme. Chacune d'elles est une preuve évidente de la majesté, de la puissance, de l'autorité et de l'universelle science du seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire. Considère le sens du toucher. Vois comme son pouvoir s'étend au corps humain tout entier. Alors que l'ouïe et la vue sont chacune localisées en un point particulier, le sens du toucher embrasse, lui, la totalité du corps. Glorifiée soit la puissance de Dieu et magnifiée sa souveraineté. Ces dons sont inhérents à l'homme. Quant aux dons qui surpassent tous les autres, est inaltérable dans sa nature et se rattache à Dieu lui-même, c'est le don de la révélation divine. Tous les bienfaits accordés à l'homme par le Créateur, tant matériels que spirituels, dépendent de ce don-là. Il est, en son essence et pour toujours, le pain qui descend du ciel. Il est le suprême témoignage de Dieu, la plus évidente manifestation de sa vérité, le signe de sa générosité parfaite, le gage de sa miséricorde universelle, la preuve de sa tendre providence, le symbole de sa grâce achevée. Et en vérité, il a reçu sa part de ce don suprême de Dieu, celui qui reconnaît sa manifestation en ce jour. Rends grâce à Dieu de t'avoir conféré un si grand bienfait. Élève la voix et dis: sois loué, ô toi, désir de tout cœur éclairé. Chapitre 96. À un inconnu. La plume du Très-Haut ne cesse d'appeler, et cependant, bien peu prête l'oreille à sa voix. Les habitants du royaume des noms s'attachent à l'aspect agréable du monde, oublieux de la fugacité de ses couleurs qui est évidente pour tout homme qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Une vie nouvelle anime en cet âge tous les peuples de la terre, mais personne n'en a découvert la cause ni perçu la raison. Considère les peuples de l'Occident. Vois comment, tout à leur poursuite de réalisations médiocres et vaines, ils sacrifient encore et toujours d'innombrables existences pour en assurer l'établissement et le développement. Quant aux peuples de la Perse, ils sont découragés et plongés dans une léthargie profonde, bien que dépositaires d'une révélation lumineuse dont la renommée s'est répandue sur la terre entière. Ô amis, ne négligez pas les vertus dont vous avez été doués. Ne soyez pas indifférents à votre haute destinée. Ne souffrez point que vos œuvres soient perdues à cause des vaines imaginations conçues par quelques cœurs pervers. Vous êtes les étoiles du ciel de la compréhension, la brise qui souffle au point du jour, les eaux tranquilles dont dépend la vie même de tous les hommes, les lettres inscrites sur le rouleau sacré de Dieu. Profondément unis et dans un esprit de fraternité parfaite, efforcez-vous d'être capables d'accomplir ce qui convient en ce jour de Dieu. En vérité, je vous le dis, discorde, dissension et tout ce qu'abhorre l'esprit humain sont choses indignes de votre rang. Concentrez vos énergies sur la propagation de la foi de Dieu. que celui qui est digne de répondre à un si noble appel se lève pour la répandre. Quant à celui qui ne peut le faire, qu'il délègue un autre pour proclamer en ses lieux et places cette révélation dont la puissance ébranle dans leurs fondements les plus solides édifices, réduit les montagnes en poussière et jette toutes les âmes dans la confusion. Si la grandeur de ce jour était révélée dans sa plénitude, chacun, pour avoir part à sa gloire, ne fût-ce qu'un instant, sacrifierait des myriades d'existences et jusqu'à ce monde et ses trésors périssables. Prenez la sagesse pour guide dans toutes vos actions et restez-lui assurément fidèle. Dieu veuille vous fortifier pour accomplir sa volonté et vous faire apprécier comme il convient le rang sublime auquel il a promu ses aimés qui se lèvent pour le servir et magnifier son nom. Que sur eux soit la gloire de Dieu, la gloire de tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel, la gloire des hôtes du très exalté paradis au plus haut des cieux. Chapitre 97. À Ali Muhammad et Seraj. Vois les doutes que ceux qui donnent des associés à Dieu ont semés dans le cœur des habitants de ce pays. Ils demandent, est-il possible de changer le cuivre en or? Dis, certes, par mon Seigneur, cela est possible. Mais ce secret gît au cœur de notre science. Nous le révélerons à qui nous voudrons. Que quiconque doute de notre pouvoir demande au Seigneur, son Dieu, de lui découvrir ce secret et de l'assurer de sa vérité. Que le cuivre puisse être changé en or prouve que l'or peut aussi être changé en cuivre, si vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité. À tout minéral, on peut faire acquérir la densité, la forme et la substance de chacun des autres minéraux. Cette science-là est nôtre dans le livre caché. Chapitre 98. Kitab et Ahdas. Dit, ô chef religieux, ne pesez pas le livre de Dieu selon les normes et les connaissances qui ont cours parmi vous. Car le livre est lui-même la balance infaillible établie parmi les hommes. Cette balance parfaite doit peser ce que possèdent tous les peuples et les gens de la terre, tandis que son poids devrait être jaugé d'après son propre étalon, puissiez-vous le savoir. L'œil de ma tendre bonté pleure douloureusement sur vous, car vous n'avez pas su reconnaître celui que vous appeliez jour et nuit, soir et matin. Ô peuple, avance, le visage blanc comme neige et le cœur radieux, vers le lieu vermeil et béni où le Sadratul Muntaha s'écrit « En vérité, il n'est pas d'autre Dieu que moi, l'omnipotent protecteur, l'absolu. » Ô chef religieux, qui parmi vous peut rivaliser avec moi en perspicacité ou en clairvoyance? Où est celui qui osera se prétendre mon égal en parole ou en sagesse? Non, par mon Seigneur, le très miséricordieux, tout sur terre passa, et voici le visage de votre Seigneur, le Tout-Puissant, le Bien-Aimé. Ô peuple, nous décrétons que la fin suprême et dernière de toute étude est la reconnaissance de celui qui est l'objet de tout savoir. Et pourtant, voyez comme vous avez laissé votre science vous dissimuler, comme par un voile, celui qui est l'aurore de cette lumière, par qui chaque chose cachée fut révélée. Si seulement vous pouviez découvrir la source d'où se répand la splendeur de cette parole, vous rejetteriez les peuples du monde et tout ce qu'ils possèdent pour vous approcher de ce siège de gloire suprêmement béni. Dis, voici en vérité le ciel où le livre mère est précieusement gardé, si seulement vous pouviez le comprendre. Il est celui qui a incité le rocher à crier et le buisson ardent à élever la voix sur le mont dominant la terre sainte et à proclamer « Le royaume est à Dieu, le souverain Seigneur de tous, le Tout-Puissant, l'aimant. Nous n'avons fréquenté aucune école, ni lu aucun de vos travaux. Prêtez l'oreille aux paroles de celui qui n'est pas érudit, paroles par lesquelles il vous appelle à Dieu, l'Éternel. Cela vaut mieux pour vous que de posséder tous les trésors de la terre. Puissiez-vous le comprendre. Chapitre 99. À Mullah Ali Akbar et à Yadi. La croyance en Dieu se meurt dans tous les pays. Son bienfaisant remède est seul à pouvoir la rétablir. Une impiété corrosive ronge les forces vitales de la société. Quoi d'autre que l'élixir de cette puissante révélation pourrait la purifier et lui rendre la vie? Ô Hakim, l'homme a-t-il le pouvoir d'apporter aux éléments constituant les particules infimes et indivisibles de la matière un changement tel que cette matière soit transmuée en or pur? Quelque troublant et difficile que cela paraisse, le pouvoir nous a été donné d'accomplir la tâche bien plus ardue de convertir les forces sataniques en puissance céleste. La force capable d'une telle transformation l'emporte pour produire un changement si grand et d'une telle portée. Chapitre 100. L'eau et allée. Du trône de Dieu, la voix du héros divine déclare « Ô vous, mes bien-aimés, ne souffrez point que la frange de mon vêtement sacré soit souillée de la boue des choses de ce monde, et ne cédez point aux impulsions de vos désirs corrompus. M'en rend témoignage le soleil de la révélation divine qui brille dans la plénitude de sa gloire au ciel de cette prison. Ceux dont le cœur est tourné vers celui qui est l'objet de l'adoration de la création tout entière, doivent en ce jour s'éloigner et se détacher de toute chose créée, tant visible qu'invisible. Et s'ils se lèvent pour enseigner ma cause, il leur faut s'animer au souffle de celui qui est l'indépendant et la répandre résolument au loin sur la terre, d'un esprit totalement centré sur lui, d'un cœur détaché de tout, et d'une âme purifiée du monde et de ses vanités. Qu'ils choisissent la confiance en Dieu comme meilleure viatique pour les soutenir au cours de leur voyage, et qu'ils se vêtent de l'amour de leur Seigneur, le très glorieux. Ainsi, leurs paroles toucheront leurs auditeurs. Il est si large et si profond le fossé qui, en ce jour, nous sépare de ceux qui, tout occupés de leurs passions mauvaises, ont mis leurs espérances dans les choses de la terre et dans leur gloire fugitive. Souvent, en effet, la cour du miséricordieux est apparue à ce point dépourvue des richesses de ce monde que ceux qui vivaient en étroite union avec lui se trouvèrent dans un cruel dénuement. Mais en dépit de leurs souffrances, la plume du Très-Haut ne daigna jamais parler des choses de ce monde et de ses trésors, ni même y faire la plus légère allusion. Et si quelque présent lui fut parfois offert, il fut accepté en témoignage de sa grâce envers le donateur. Bien entendu, s'il nous avait plu de nous approprier pour notre usage personnel tous les trésors de la terre, nul n'eût été fondé à discuter notre autorité ni à contester notre droit. Mais peut-on imaginer acte plus méprisable que de solliciter, au nom du seul vrai Dieu, les richesses des hommes? Il t'incombe, comme il incombe à tout disciple de celui qui est la vérité éternelle, d'inviter les hommes à se purifier de tout attachement aux choses de la terre et à se laver de toutes leurs souillures, afin que puisse, sur tous ceux qui l'aiment, se respirait le parfum suave du vêtement du très glorieux. Quant à ceux qui possèdent la richesse, ils doivent aux pauvres les plus grands égards, car grand est l'honneur que Dieu réserve aux indigents dont la patience est inébranlable. Par ma vie, aucun honneur ne saurait lui être comparé, hormis celui qu'il plaît à Dieu de conférer. Grande est la bénédiction réservée aux pauvres qui tient son mal secret et l'endure avec patience. Et heureux le riche qui prodigue ses biens aux nécessiteux qu'il préfère à lui-même. Quant à ces nécessiteux, Dieu veuille qu'ils s'efforcent de trouver des moyens d'existence. C'est là un devoir qui, en cette grande révélation, est prescrit à chacun et dont Dieu tient l'accomplissement pour une bonne action. À qui s'en acquitte fidèlement, l'aide de l'invisible ne fera jamais défaut. Dieu peut, par sa grâce, enrichir qui lui plaît. Il a, en vérité, pouvoir sur toute chose. Ô Ali, explique aux aimés de Dieu que l'équité est la plus fondamentale des vertus humaines. Elle doit être, en effet, le critère de l'évaluation de toute chose en ce monde. Médite un instant sur les malheurs et les afflictions que ce prisonnier a souffert. Tous les jours de mon existence, je me suis trouvé à la merci de mes ennemis, et tous les jours, j'ai enduré de nouvelles tribulations dans le chemin de l'amour de Dieu. J'ai tout accepté avec patience, jusqu'à ce que la cause de Dieu soit largement répandue sur la terre. Et s'il se lève maintenant quelqu'un qui, mu par ses vaines imaginations, s'efforce, ouvertement ou en secret, de répandre les germes de la discorde parmi les hommes, pourra-t-on dire que la justice se trouve de son côté? Non, certes, par celui dont la puissance s'étend sur toute chose, par ma vie, mon cœur gémit et mes yeux versent des larmes amères sur la cause de Dieu, sur ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils disent et imaginent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. En ce jour, il convient à tout homme de s'attacher fermement au nom suprême et d'œuvrer pour l'unité de l'humanité. Nul endroit où fuir, nul abri à chercher en dehors de lui. Si un homme venait à prononcer des paroles propres à détourner ses semblables des rivages de l'océan sans limite de Dieu et à diriger leur cœur non vers cet être manifeste et glorieux, mais vers quoi que ce soit ayant revêtu une forme sujette aux limitations humaines, un tel homme, quelle que soit la hauteur de son rang, serait aussitôt dénoncé par la création tout entière pour s'être privé des douces saveurs du très miséricordieux. Dis, soyez équitable en votre jugement, homme dont le cœur est éclairé. En effet, qui ne l'est point est destitué de tout ce qui caractérise son rang d'homme. Celui qui est la vérité éternelle sait fort bien ce que les hommes recèlent en leur cœur. Sa longue tolérance a enhardi ses créatures, car il ne déchirera pas le voile avant que l'heure soit venue. Sa miséricorde a contenu la fureur de sa colère, et beaucoup ont pensé que le seul vrai Dieu ignorait ce qu'il perpétrait en secret. Par celui qui est l'omniscient, l'informé, le miroir de sa science ne cesse pas un instant de réfléchir toutes les actions des hommes avec clarté, précision et fidélité. Dis, loué sois-tu, ô toi qui caches les péchés des faibles et des abandonnés. Magnifié soit ton nom, ô toi qui pardonnes leurs offenses aux irréfléchis. Nous avons défendu aux hommes de suivre les imaginations de leur cœur perverti, afin qu'ils puissent reconnaître celui qui est à la fois l'objet et la source souveraine de toute science, et accepter tout ce qu'il lui plaît de leur révéler. Vois comme ils sont retenus dans les liens de leurs chimères et de leurs vaines imaginations. Par ma vie, ils sont les propres victimes des inventions de leur cœur et ils ne le savent pas. Tout ce qui sort de leurs lèvres est vain et inutile et ils ne le comprennent pas. Nous prions Dieu qu'il accorde sa grâce à tous les hommes et qu'il les rende capables de le connaître et de se connaître eux-mêmes. Par ma vie, qui le connaît s'élancera dans l'immensité de son amour, détaché du monde et de tout ce qui lui appartient. Rien sur la terre ne saura l'arrêter dans son essor, et moins que tous ceux qui, mus par leurs vaines imaginations, disent ces choses que Dieu interdit. Dis, le jour est venu où toute oreille se doit d'être attentive à sa voix. Écoutez l'appel de cet opprimé. Magnifiez le nom du seul vrai Dieu. Ornez-vous de la parure de son souvenir et illuminez votre cœur de la lumière de son amour. C'est la clé qui ouvre le cœur des hommes, le brillant qui polit l'âme de tous les êtres. Qui néglige ce qu'a prescrit l'index impérieux de Dieu vit manifestement dans l'erreur. La concorde et la droiture sont les marques de la véritable foi, plutôt que la dissension et l'inconduite. Proclame devant les hommes ce que t'a ordonné d'observer celui qui dit la vérité et qui est porteur de la foi de Dieu. Ma gloire est sur toi, ô toi qui as invoqué mon nom, dont les regards sont dirigés vers ma cour, et dont la langue célèbre la louange de ton Seigneur, le bienfaisant. Chapitre 101. À Oustad Shir Muhammad. Le but qui sous-tend la révélation de tout livre céleste, que dis-je, de chaque verset de la révélation divine, est d'ouvrir le cœur des hommes au sentiment de la justice et d'éveiller en même temps leur intelligence, afin que la paix et la tranquillité s'établissent fermement entre eux. Tout ce qui instille la fermeté dans le cœur des hommes, tout ce qui exalte leurs conditions et accroît leur contentement est recevable aux yeux de Dieu. Élevée serait la condition de l'homme s'il se décidait à remplir sa haute destinée. Mais profond est l'avilissement où il sombre dans des abysses que les créatures les plus viles n'ont jamais atteintes. Saisissez, ô amis, la chance que ce jour vous offre et ne vous privez point des généreuses effusions de la grâce divine. Je prie le Seigneur qu'il rende chacun de vous capable de s'orner, en ce jour béni, de la parure des œuvres pures et saintes. Il fait, en vérité, ce qu'il veut. Chapitre 102. À Abul Fadl Gulpayrani. Prête une oreille attentive, ô peuple, à ce qu'en vérité je te dis. Le seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire, a toujours considéré le cœur des hommes comme son bien propre, sa propriété exclusive. Tout le reste, terre et mer, gloire et richesse, il le donne en partage aux rois et princes de la terre. Depuis le commencement qui n'a pas de commencement, l'étendard qui proclame « Il fait ce qu'il veut » a toujours été déployé devant sa manifestation. Obéir à ceux qui détiennent l'autorité et tenir fermement la corde de la sagesse, tel est en ce jour le devoir de l'humanité. Les instruments essentiels à la protection immédiate et à la sécurité du genre humain ont été remis aux mains des dirigeants de la société humaine. Telle est la volonté de Dieu, tel est son décret. Nous caressons l'espoir qu'un des rois de la terre se lèvera pour l'amour de Dieu et assurera le triomphe de ce peuple persécuté et opprimé. Ce roi sera à jamais exalté et glorifié. Dieu a prescrit à ce peuple d'aider qui l'aidera, de servir ses intérêts et de lui témoigner une fidélité constante. Ceux qui me suivent ont donc le devoir de servir en toutes circonstances quiconque se lèvera pour le triomphe de ma cause, et de lui prouver en tout temps leur dévouement et leur fidélité. Heureux l'homme qui écoute mes avis et les met en pratique, et malheur à qui manque de remplir mes vœux. Chapitre 103. À un inconnu. Dieu, dont la langue n'exprime que la vérité, apporte dans toute cette tablette le témoignage de ses paroles. Je suis celui qui vit dans le glorieux royaume d'Abba. Par la justice de Dieu, des hauteurs de cette condition sublime, sacrée, puissante et transcendante, il voit tout, il entend tout, et en cette heure, il proclame « Béni sois-tu, ô Javad, pour avoir atteint ce qu'aucun homme avant toi n'avait atteint. Je le jure par celui qui est l'éternelle vérité, Par toi, les yeux des hôtes du paradis sublime se réjouissent. Le peuple, cependant, reste plongé dans l'indifférence. Si nous révélions ton glorieux état, le cœur des hommes en serait profondément troublé, ils perdraient pied. Ceux qui incarnent la vanité en seraient confondus. Ils tomberaient à terre, et de peur d'entendre, ils se boucheraient les oreilles avec leurs doigts d'inconscience. Ne t'attriste pas sur le sort de ceux qu'absorbent les choses de ce monde et qui perdent le souvenir de Dieu, le grandissime. Par celui qui est la vérité éternelle, le jour approche où s'abattra sur eux la colère du Tout-Puissant. Il est en vérité l'Omnipotent, l'Universel Conquérant, le Fort. Il purgera la terre des souillures de leur corruption et il la donnera en héritage à ceux de ses serviteurs qui lui sont proches. Dis, ô peuple, la poussière emplit vos bouches et la cendre vous aveugle pour avoir vendu au plus vil des prix le divin Joseph. Quelle misère est la vôtre, ô vous qui errez si loin de lui! Vous êtes-vous imaginé que vous aviez le pouvoir de le dépasser, lui et sa cause? Bien loin de là, et de cela lui-même le Tout-Puissant, le Très-Exalté, le Très-Grand, porte témoignage. Bientôt, vous sentirez passer sur vous les rafales de son châtiment, et la poussière de l'enfer vous recouvrira de son linceul. Ces hommes qui ont amassé les vanités et les hochets de la terre se sont détournés de Dieu avec dédain. Ils ont à la fois perdu ce monde et le monde à venir. Avant peu, Dieu, de la main du pouvoir, les privera de leurs possessions et les dépouillera du vêtement de sa munificence. Cela, ils le verront bientôt, et toi aussi, tu en rendras témoignage. Dis, ô peuple, le monde et tout ce qu'il renferme est sous la puissante étreinte de sa volonté. Ne vous laissez pas décevoir par les illusions de cette vie. Il dispense à qui il veut ses bienfaits, et à qui il lui plaît, il les retire. Il agit en vérité selon son bon plaisir. Si le monde était à ses yeux de quelque valeur, même celle d'un grain de moutarde, il n'en eût pas abandonné la possession à ses ennemis. Mais il a permis que vous vous laissiez entraîner dans le tourbillon des affaires du monde à cause de ce que vos mains ont forgé contre sa cause. C'est là, en vérité, un châtiment que vous vous êtes vous-même délibérément infligé. Puissiez-vous le comprendre? Continuerez-vous à faire vos délices de choses que Dieu tient pour méprisables et par lesquelles il a voulu mettre à l'épreuve le cœur des hésitants? Chapitre 104. Paroles cachées. Ô vous, peuple du monde, sachez en vérité qu'une calamité imprévue vous poursuit et qu'un châtiment douloureux vous attend. Ne croyez pas que vos actes soient effacés de ma vue. Par ma beauté, ma plume les a tous gravés en caractères explicites sur des tablettes de chrysolite.